Fabio Viscogliozzi.
Moi, je n'écris que pour éclairer, en fait, pour m'approcher de zones qui m'intriguent, qui me fascinent, me passionnent, pour lesquelles je n'ai justement pas une idée résolue. Donc, je cherche plutôt la clarté, en fin de compte.
Ça peut pas faire de mal.
C'est un peu comme quand vous roulez dans ces jeux vidéo, vous avez l'impression en fait, d'approcher d'un arbre ou du paysage qui vient vers vous. Et en fait, au fur et à mesure, le paysage se déroule encore plus. Et il vous semble évidemment inatteignable, cette idée du grand infini. Et il y a dans le travail littéraire, je trouve, ce paradoxe qui est à la fois d'éclairer des zones et de les approcher, et dans le même temps de les complexifier parce qu'on y découvre d'autres nuances, d'autres détails.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Le 12 décembre 1933, en fin de journée, le grand comédien Harpo Marx est au volant d'une Citroën 5 chevaux carrossée en torpedo de couleur bleu pâle. Seul à bord, il roule à une vitesse de 60 km/h. Vitesse raisonnable à laquelle il est difficile d'attribuer la responsabilité du dérapage qui survient sur la départementale 104 à la hauteur du lieu-dit La Charrière. À cet endroit, la route dessine une longue ligne droite sur un plan déclinant à 4%. Peut-être quelque animal, renard, furet ou ragondin, a-t-il traversé à cet instant, poussant Harpo à donner par réflexe le coup de volant qu'il envoie dans le décor. Ou est-ce un pneu qui éclate? Une plaque de verglas? L'inattention? La somnolence? Allez savoir. Les faits sont là. En une poignée de secondes, la torpedo quitte le bitume, fauche les barbelés pour dévaler le champ voisin, bascule trois fois sur elle-même avant d'achever sa course 100 mètres en contrebas, butant à la renverse contre une citerne de pâturage. Piqué par la curiosité, des chouquins se rapprochent de cet homme inconscient. Ils observent le costume de laine, la poche arrachée et le petit filet de sang au coin de l'oreille. Le reste ne se voit pas. Deuxième d'une fratrie de cinq, Harpo vient d'avoir 45 ans. Originaire de New York, il est célibataire, américain, vit sur la côte ouest, aime le jeu de croquet, pratique la harpe et parle habituellement un anglais truffé de mots yiddish. Excepté sur scène et dans les films où il ne parle jamais. Un corps laissé pour mort au bord de la route, sous l'œil inquiétant des charognards. On se croirait chez Jim Harrison dans Légende d'automne, mais c'est une autre légende qui commence, sous la plume d'un artiste franco-italien dont j'aime l'univers poétique et décalé, mon ami Fabio Viscogliozzi. Écrivain, dessinateur, compositeur et interprète, Fabio Viscogliozzi vient de sortir un album de chansons intitulé « Rococo ». Avec une âme d'éternel adolescent, il porte un regard rempli de douceur sur le monde qui l'entoure. Car le dandy de la pop est aussi un promeneur solitaire, sensible aux couleurs du temps qui passe, l'odeur du jasmin un soir d'été, l'hiver qui tombe sur la campagne. C'est justement à travers la campagne française que le prochain roman de Fabio nous invite à voyager dans le temps. Harpo sortira le 8 janvier 2020 aux éditions Actes Sud. Ce soir, en avant-première, je vous invite à parcourir cette passionnante épopée, parenthèse étrange dans la vie du grand comique américain Harpo Marx, qui serait venu se perdre en France à l'hiver 1933. L'histoire commence comme un banal fait divers. Mais Fabio Viscogliozzi sait que les accidents de la vie ne sont jamais anodins. Ils nous laissent en état de choc, comme une blessure qui ne se refermera pas. Fabio a perdu ses parents dans l'incendie du tunnel du Mont-Blanc en 1999. Orphelin, il l'est aussi de frère, car il n'a jamais connu son frère aîné, un enfant mort à la naissance 5 ans avant lui. Dans son précédent livre, Apologie du slow, l'écrivain confie « J'ai toujours envié les fratries, Marx Brothers, Beach Boys, Ramones, vrais ou faux frères, qu'importe finalement. » Ce soir, c'est en solitaire que nous allons découvrir Harpo Marx, à travers cet émouvant portrait de l'artiste condamné malgré lui à l'errance. Ouvrons cette histoire intrigante, tellement vraie qu'on voudrait y croire. Nous sommes en décembre 1933. Pendant que l'Allemagne nazie s'apprête à fêter la première année au pouvoir d'Adolf Hitler, Harpo Marx est de retour d'une tournée triomphale en Russie. Une tournée politique qui doit participer au réchauffement des relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Union soviétique. Le 6 décembre, il fait escale en France. Retrouvons Harpo quelques heures après son accident. Inconscient, blessé à la tête, l'artiste a survécu au choc. c'est le propriétaire du terrain, un certain Bachelard, qui a découvert la voiture et trouvé le corps inanimé. Il a emmené l'inconnu à l'hôpital le plus proche, dans la ville de Privas, à mi-chemin entre Valence et Montélimar. Mais les premiers soins d'urgence ne permettent pas de réanimer notre blessé tombé dans le coma. Harpo occupe le lit numéro 3 dans une chambre collective, séparée des autres patients par des paravents montés sur roulettes. Les draps sont un peu raides sous l'effet de l'humidité et de la blanchisserie. Mais Harpo est très loin de ses considérations. On pense qu'il ne souffre pas, absent à lui-même, baigné tout entier dans un océan de coton. On attend. Une jeune infirmière, Adeline Forêt, lui rend visite tous les quarts d'heure. Elle vérifie les pulsations du cœur, contrôle la perfusion, la température du corps, le teint de la peau, guette le moindre indice qui pourrait indiquer une évolution de l'état du patient. Deux fois, elle s'est attardée sur le visage, dont le sourire intrigue de manière étrangement familière. Le reste du temps, jambes croisées, Adeline Forêt se tient sur une petite chaise dans le bureau voisin de la chambre. Elle s'immerge dans un roman de Claude Aveline, « La double mort de Frédéric Belot », un livre acheté la semaine précédente lors d'une escapade à Valence. Ses cheveux roux sont tenus en chignon, son index effleure les pages ou une mèche furtive, par intermittence. Sa lecture avance vite. Elle en est déjà au chapitre 12, celui où l'on apprend que Frédéric Belot n'est peut-être pas vraiment Frédéric Belot. Mais passons, ceci est une autre histoire. Car c'est précisément à cet instant, sur le coup des 3 heures, que les paupières de Harpo amorce un délicat mouvement d'éveil. 3 fois rien. Lentement, ses yeux s'ouvrent à un monde étranger, telle cette forme lumineuse au plafond, découpée par l'ombre du grand cèdre derrière la fenêtre, près de la façade ouest, grand cèdre dont Harpo ignore tout, bien évidemment. Mais l'esprit est ainsi fait, quel que soit le degré d'abstraction, il cherche immédiatement à reconnaître une figure, une géographie connue, un élément croisé un jour, un trait familier, un signe qui, par association, pourra donner un peu de sens aux choses perçues. Toutefois, le monde comme représentation demande des forces et de la volonté. Harpo est encore trop faible pour ce petit jeu, et ses paupières se referment et s'engluent aussitôt. Tout à son roman, Adeline Forêt a raté cet épisode, et à l'inspection suivante, elle ne relève rien de particulier. L'accidenté est fidèle à lui-même, immobile, souriant, les yeux fermés. Dans quelques heures, il en ira tout autrement. Disons-le sans attendre, au petit matin, Harpo s'éveillera pour de bon, durablement, avec un appétit de vivre pour le moins encourageant. Du strict point de vue médical, le pronostic vital ne sera plus engagé. Depuis 3 jours, Harpo se retape. Il a faim, au propre et au figuré. Il dévore. Il aime tout, la vie, le pain et le fromage qu'on lui offre, bleu d'Auvergne ou comté, c'est selon. Son cas relève du miracle, tel que l'ont constaté les professeurs Malachi et Constant, tous deux diplômés de la faculté de Grenoble. Ils lui rendent visite à plusieurs reprises, s'étonnant sans cesse des progrès faits par le patient. Qu'en est-il de son genou ? Ce n'est pas si mal. Et en dépit de la douleur, il a tenté une petite promenade ce matin même, du lit aux toilettes, agrippé au bras généreux d'Adeline Forêt. Celle-ci est pleine d'attention pour cet homme à la tête enturbanée. Harpo, lui aussi, se montre sensible aux entrées de l'infirmière. Lorsqu'elle prend son service, il sourit franchement, les yeux ronds en dessous du pansement. Malgré tout, on s'interroge. On n'a retrouvé sur lui aucun document, aucun papier d'identité ou carte de visite, pas même un ticket d'autobus ou une note de restaurant. Peut-être se sont-ils égarés dans la confusion de l'accident, ou avant, sur le chemin qui l'a conduit jusque-là. Une enquête est ouverte, mais les intempéries la ralentissent. Il faudrait aller inspecter l'automobile qui, pour l'heure, sommeille sous une épaisse couche de neige. Il faudrait, mais la région est en alerte. Les routes sont coupées et les autorités ont d'autres chats à fouetter. C'est, en substance, ce qu'ont dit les gendarmes, constellant leur rapport de point d'interrogation. Affaire à suivre, donc. Il n'empêche, le cas Harpo étonne. Les professeurs l'ont questionné brièvement au sujet de son identité et plus largement sur les circonstances qui précèdent son arrivée. Cet homme n'est tout de même pas tombé du ciel. Harpo ne sait que dire. Du reste, il parle très peu et mal, dans une langue heurtée où l'anglais domine. Ce n'est pas une franche aphasie, plutôt un trouble structurel, et la mémoire peine à s'exprimer. Il ne cherche pas véritablement ses phrases, mais les événements et les souvenirs tapis derrière celles-ci. Il se souvient du pain, du fromage, de ses mains, de la lumière et des ombres au plafond, du visage d'Adeline. Mais au-delà et au-dessous, tout s'efface. C'est comme un grand vide dans son esprit. Pour tout dire, s'il ignore où il ignore également qui il est. Harpo n'est plus Harpo. Harpo n'est personne.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. You're my thrill. You do something to me. You send chills right through me when I look at you, 'cause you're my thrill. You're my thrill. How my pulse increases. I just go to pieces when I look at you, 'cause you're my thrill. Nothing seems to matter. Here's my heart on a silver platter. Where's my will? Why? That keeps mounting higher when I look at you. I can't keep still. Increases. I just go to pieces when I look at you, 'cause you're my thrill.
Hélas, les beaux yeux de l'infirmière ne retiennent pas longtemps Harpo. Amnésique, le patient cède à une impulsion soudaine et décide un matin de s'enfuir à ses risques et périls. C'est le début d'une longue errance à travers la campagne où l'artiste, en quête de lui-même, découvre les diktats de l'instinct. En plein hiver, dans une région inconnue et hostile, il lui faut apprendre à survivre comme un animal, comme le vagabond qu'il est devenu. Marcher, s'arrêter, pisser tout droit derrière un chêne, hésiter, marcher, prendre le chemin qui monte sur la droite plutôt que l'autre sur la gauche, hésiter, marcher très lentement, refaire son lacet, le pied sur une borne, lire D914 en blanc sur le gris de la borne, marcher, s'asseoir, refaire son lacet sur un plot en ciment, se masser le genou, se masser la hanche, se gratter la cuisse, marcher, se glisser sous des barbelés, s'accrocher et renoncer, marcher. Le scénario se répète au fil des jours, sans date. Harpo ne compte pas, il en serait bien incapable. La faim est son moteur, les autres questions sont repoussées loin derrière cette urgence. Cette fois, tout est simple. Il s'approche de la maison en contrebas, une grande bâtisse surplombée d'un toit de lauze et d'une cheminée fumante. Il avance à pas fragiles. Sur le sol boueux traîne une chaîne, et au bout de la chaîne, un collier de cuir, mais nul aboiement autour. Harpo profite de cette absence. Il longe les murs de pierre grise, la laine de son manteau se prend aux ronces près de la fenêtre, tandis qu'il inspecte l'intérieur de la maison, déserte en apparence. Et puis tout s'accélère. Sa respiration, la rumeur de ses pas sur le plancher, son regard qui balaie le rez-de-chaussée et ses mains qui saisissent ce qu'elles peuvent. Pommes jaunes, saucissons, miches de pain et même une caille figée dans le fond d'une cocotte. À l'ombre d'un talus, les fesses sur les talons, Harpo mord dans le saucisson. De mâcher trop vite, les mâchoires lui font mal. Ses muscles se crispent sous l'effort, mais la nourriture le réchauffe dans le même temps. Ses yeux se perdent dans le relief d'un fourré à la lisière du pré en amont. Il ne se demande plus vraiment dans quelle direction aller. Qu'importe finalement. D'une certaine manière, il commence à goûter une part de cet impromptu, l'arbitraire qui lui fait prendre un chemin plutôt qu'un autre. Peu à peu, l'intuition qui le guide lui procure un petit plaisir, une forme d'excitation. C'est la seule marge de manœuvre qui lui reste, cette liberté qu'il s'arroge à chaque pas. Harpo l'ignore, mais il en a souvent été ainsi dans sa vie. Les frères Marx sont les champions de l'improvisation, renversant la réalité à toute vapeur, en toutes circonstances. À ce petit jeu, Chico, son frère aîné, a toujours été très fort. Lorsqu'ils étaient enfants, Harpo l'admirait déjà pour cette capacité féroce à transformer le hasard en destin. Plus d'une fois, cet instinct de survie les a tirés d'une situation périlleuse. Lorsqu'ils sont ensemble, tout s'éclaire, et le présent relève du choc thermique. Ils sont les particules complémentaires d'une même entité atomique. Oui, si Chico était près de lui, l'affaire prendrait une toute autre tournure. Mais Harpo ne peut faire appel à aucun de ses frères, pas même en esprit. Il demeure résolument seul, face au paysage qui déroule son énigme, et c'est peut-être ce qui le trouble le plus. Il arpente une carte géographique privée de légende, et lorsque son pied écrase une petite branche, c'est la réalité tout entière qui claque avec elle. Pendant des jours, Harpo parcourt des sentiers et trouve refuge dans des granges. Un matin, à bout de force, il s'effondre dans la neige. Lorsqu'il reprend conscience, il se réveille dans une chambre douillette. Il a été recueilli par un ermite, un certain Désorme, un rude gaillard qui s'est retiré de la société pour écrire des livres sur la nature. Content de trouver de la compagnie, l'homme héberge l'inconnu, renonçant à lui poser des questions auxquelles celui-ci ne peut répondre. Leur quotidien s'organise entre les travaux d'extérieur, déblayer la neige par exemple, et les bons petits plats à partager. Le temps passe. Nous sommes le 24 décembre, et Harpo pourrait bien s'être trouvé un nouveau frère d'infortune. Ils ont dégusté l'omelette en forçant un peu sur le vin rouge. Deux bouteilles et demie, toujours ce macon jeune et fruité, ils vous montent à la tête sans qu'on y prenne garde, enchaînés à plusieurs verres de poire, une gnôle de fabrication artisanale locale qui pointe à 45 degrés au moins. Chauffé par les vapeurs de l'alcool, Désormais plus bavard que jamais. À l'usage, ils ont mis au point une langue intermédiaire, faite de mots anglais et français, auxquels se mêlent le mime et tout un jeu d'expressions, de mouvements de mains, de petits croquis si nécessaire. Et désormais s'emballe. Sa pensée progresse par fulgurance et digression, sautant d'un sujet à l'autre. Un peu étourdi par cette avalanche d'informations, Harpo continue de sourire, obstinément. Mais on ne saurait dire ce que cette expression recouvre dans le fond. Ajoutons qu'il est totalement ivre. Pour illustrer ses propos, Desormes se lève soudain d'un bond et file chercher une carte postale qu'il montre à Harpo. Il s'agit d'une reproduction du tableau de Bruegel l'Ancien, Les chasseurs dans la neige. L'impression est rudimentaire, le noir et blanc ajoute à l'imagination nécessaire pour apprécier toutes les finesses de l'œuvre originale, mais ce n'est que plus beau peut-être. La peinture date de 1565, précise Desormes les yeux mi-clos. C'est très important pour lui. Il aimerait que tout ce qu'il écrit s'approche un tout petit peu, par association au moins, du climat si particulier de ce chef-d'œuvre inaccessible évidemment. Et il s'excite, bras en l'air, complètement ivre lui aussi. Puis il sort pisser dans la nuit, laissant la porte grande ouverte. Le froid qui s'engouffre se mêle à la contemplation de Harpo. Il navigue longtemps dans le tableau de Bruegel, saisi par le dessin général. À son tour, Harpo aimerait pénétrer plus avant, zoomer dans la trame de l'image, atteindre cette portion du ciel où le gris n'est plus qu'un jeu de tonalités subtiles, abstraites presque. En titubant, il rejoint Desormes, planté droit au bout du pré, main dans les poches, le nez au vent glacé. Côte à côte, leurs silhouettes ont quelque chose d'un peu comique et dérisoire, deux taches claires dans l'obscurité. Par un effet subliminal, ils devinent la proximité des masses alentour, un océan aveugle où l'air se charge d'une densité particulière. L'écho d'un clocher se fond dans le tumulte du torrent au contrebas. Harpo respire à grande goulée, bouche ouverte, avec la sensation qu'il pourrait mordre dans tout cela. Si la mémoire lui fait toujours défaut, il se sent pourtant incroyablement vivant, en temps réel, comme si chacun des éléments qui l'enveloppent se chargeait d'une vérité supplémentaire. C'est probablement la nuit de Noël la plus simple et la plus étrange qu'il ait jamais vécue. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les proches de Harpo s'inquiètent de sa mystérieuse disparition. À New York, les amis de l'artiste se sont réunis en cellule de crise. Groucho, l'un des cinq frères Marx, décide de faire appel à une célèbre agence de détectives privés qui envoie immédiatement l'un de ses agents en France. Mais le temps de la traversée est long. L'enquête n'est pas prête d'aboutir et Groucho sent le désespoir monter en lui. Groucho soupire. L'attente et l'inaction lui pèsent. S'il s'écoutait, il irait chercher un revolver pour tirer au hasard sur les chapeaux à travers les rues, ou sur un de ces Pères Noël et leurs saletés de grelots aux abords de Times Square. Tout pour qu'il se passe quelque chose. Il soupire à nouveau. Si la patience n'est pas son fort, la force physique l'est encore moins. Sa seule arme a toujours été le langage.
Not seriously. What are you going to play? What are you going to play?
Parler.
I'm forever blowing bubbles. That's why.
Baratiner son prochain, jacasser sans cesse. A-t-il jamais fait autre chose?
I'm a great musical conductor.
À présent, ses propres mots s'éteignent dans sa gorge. Et c'est un grand vide dans son esprit. Il a envoyé un câble à son frère Chico, actuellement à Londres, pour l'informer de la disparition de Harpo. Mais Chico n'a pas plus donné de réponse. Que fait-il encore celui-là? Groucho a le sentiment que le clan Marx se disloque. Zeppo et Gumo, ses deux autres frères, n'ont pas l'air de mesurer la gravité de la situation. Frenchy Marx, leur père, les a quittés quelques mois auparavant, emportés par un infarctus un matin d'avril. Et Doc Soup, leur dernier film, a reçu un accueil mitigé. Le public se lasse. La farce tourne allègre. Leur humour commence peut-être à fatiguer. Les temps changent, se dit Groucho. Et il ne peut s'empêcher de voir un signe dans cette conjonction de catastrophes. Planté sur le trottoir gelé, il se souvient de cet entretien récent dans lequel il déclarait qu'il ne fallait voir rien d'autre dans leur gesticulation cinématographique, rien, sinon quatre juifs en train d'amuser la galerie. Quel cuistre ! Il en rougit rétrospectivement. Ses propres pirouettes ne l'excitent plus du tout. Il cherche désespérément dans le décor alentour un point qui accrocherait son regard. N'importe quoi, un détail qui redonnerait un peu de consistance à la réalité. À l'aventure, chez un bouquiniste de Bleecker Street, ses doigts parcourent le dos des volumes alignés, desquels il extrait un exemplaire à la couverture jaune pâle. « The Cynic's Breviary, Maxims and Anecdotes from Nicolas de Champfort ». Il hésite à l'ouvrir, partagé entre la curiosité et la lassitude. En France, on laisse en repos ceux qui mettent le feu et on persécute ceux qui sonnent le tocsin, écrit Champfort. Groucho range aussitôt le livre dans son rayon. Au diable les ruminations du vieux misanthrope, au diable la France et ses tocsins, au diable la littérature et ses formules en tire-bouchon. Il a besoin de réponses autrement plus solides. Il quitte la librairie et s'en va traîner du côté de Washington Square. Assis sur un banc à la peinture écaillée, cigare en bouche, il observe longuement les restes d'un vieux hot-dog. Son regard se perd dans les traces de gras sur le bitume. La statue de George Washington et son cheval de bronze inclinent la tête à l'unisson. Les touches d'ocre et de mauve filtrent à travers les branches des sycomores pour frapper la façade d'un building art déco. « C'est idiot », se dit Groucho Marx, grattant une allumette. « Le monde est dur et tendre tout à la fois. » Il en pleurait. L'année 1933 s'achève ainsi, un dimanche. Voici en janvier 1934, une nouvelle vie commence pour Harpo. S'inquiétant du devenir de son invité, Desormes a écrit à sa sœur, Louise, pour lui demander conseil. Celle-ci a invité les deux hommes à la rejoindre chez elle à Lyon. Selon elle, il faut que Harpo trouve du travail et reconstruise sa vie. Grâce à ses relations, la jeune femme réussit à le faire embaucher à l'imprimerie où travaille son compagnon, un dénommé Beaulieu. Pendant quelques semaines, Harpo partage les cadences de l'usine et la vie du couple. À ses heures perdues, il se met au piano et croit retrouver des bribes de souvenirs. Pour stimuler sa mémoire, Louise a soudain une idée. faire paraître un article et un portrait dans la presse dans l'espoir que quelqu'un le reconnaisse. Elle organise un rendez-vous avec un jeune journaliste, Germain Bonnet, pigiste au journal Le Progrès, le quotidien lyonnais. La rencontre a lieu dans un café du Passage de l'Argue, un mercredi soir. Germain Bonnet est immédiatement titillé par la situation que décrit Louise Desormes. À grands traits, elle raconte comment son frère a accueilli l'Américain sur une route de Haute-Ardèche, la cicatrice à la tête et son amnésie persistante, l'emploi à l'imprimerie, son caractère doux et flottant et le côté pianiste impromptu. Harpo écoute, sourit à demi dans le vague et Bonnet s'emballe. Les yeux plissés, il voit la dimension romanesque du personnage. La matière pour trousser un beau papier. Oui, à mi-chemin de Poe et de Stevenson. Un peu du Schwab des vies imaginaires aussi. Bref, tout ce qu'il aime. Cette poussière de réalité qui tendrement vient se déposer sur la fiction. Le souffle enivrant du possible, comme écrivit Gourmont autrefois. Et il lève le bras en direction de Tremblay, son collègue à l'entrée du café, barbu en duffel coat, équipé d'un appareil lumière à souffler autour du cou. Tremblay est un peu pressé, comme toujours les photographes. Mais il ne lui faut guère qu'une poignée de minutes pour tirer le portrait d'un Harpo plus ahuri que jamais, dos au mur jauni par la cigarette. Là, dans ce bistrot où la clarté n'est pas idéale, certes, mais l'ambiance parfaite, dit Bonnet en se frottant les mains. Et il tient promesse. L'article paraît très vite dans Le Progrès du lundi 29 janvier 1934. Sur deux colonnes, en page 5, titré « Qui est cet homme ?» et en dessous, un Américain imaginaire. Beaulieu se l'est procuré à la première heure et Louise, fébrile, déplie le journal sur leur nappe Vichy bleu vif. Elle lit à voix haute. Le petit Bonnet a du style, il faut le reconnaître. Même s'il a forcé le trait, ici ou là, il s'écoute un peu écrire, tel cet « Américain errant, sans nom et sans passé, vagabond fantomatique sur une terre sauvage striée de blanc, où le ciel se délave et les vallons succèdent aux vallons, tandis que le regard se perd dans cet enchaînement. » Surtout, il y a la photographie, imprimée sur deux colonnes également. Suffisamment large pour que l'on se promène à loisir sur le visage de Harpo, les yeux en point d'interrogation, bouche ouverte, le gris de l'encre creusant des sillons sur ses joues et son front. Il est d'ailleurs le premier surpris de se découvrir ainsi, étranger familier dans ce miroir de papier, si loin, si proche au même instant. Qui pour le reconnaître ? Répondre à la rédaction SVP, 85 rue de la République, Lyon 2e. Un vendredi soir, le 2 février précisément, l'écrivain Germain Bonnet est reçu à dîner chez Louise Desormes et Beaulieu. Harpo est bien sûr présent et au centre de la conversation. De toute évidence, l'article n'a pas encore fourni de retour probant, explique Bonnet, hormis les quelques détraqués habituels qui ne ratent pas une occasion d'écrire à la rédaction. Mais le jeune ambitieux voit plus loin. L'article l'a mise en jambe. Avec une histoire pareille, un sujet qui tape, il accompagne du poing dans sa main, il y a de quoi écrire un livre tout entier, un roman donc, avec édition à l'avenant et une diffusion nationale. L'œil brillant, il décrit son projet par le menu. Il imagine une fable épique, une odyssée des temps modernes, osons l'expression, une exploration de la géographie et du langage. La France révélée à travers le regard de l'Américain errant, l'amnésique, le nouveau et l'ancien monde réunis. Du jamais vu, selon Bonnet, qui se resserre une rasade au comble de l'excitation. C'est bien simple, à l'entendre, cette idée de roman est tellement puissante qu'il s'attribuerait directement le Goncourt. Louise Desormes, cigarette aux lèvres, ne sait trop quoi dire, sinon, oui, pourquoi pas. Sans se l'avouer, on commence à douter. La situation semble bloquée. On ne peut négliger aucune piste, aucune éventualité. Sans quoi, Harpo retrouverait-il jamais la mémoire et une vie normale? L'intéressé n'a pas la réponse. Devant le flot de paroles de Germain Bonnet, son attention a décroché depuis un moment déjà, pour se perdre dans les motifs du papier peint, des fleurs de lys de style art nouveau, où l'ocre et le vert pâle s'entremêlent en un tourbillon infini. Le lendemain, samedi 3 février, Harpo semble céder à une nouvelle envie de fuguer. Après un bon dîner et une bonne nuit, l'artiste s'est levé de bonne heure et a décidé de sortir faire une promenade. C'est la première fois qu'il se retrouve seul dans le dédale des rues de Lyon. une odyssée miniature qui le ramènera peut-être, non pas chez lui, mais à lui, au plus près de son identité. En chemin, une expérience proustienne ravive quelques images du passé. C'est une première, ce genre d'escapade. Il n'est encore jamais allé seul dans la ville et se demande quelle direction prendre. Mais c'est aussi l'un des plaisirs de la déambulation que de s'en remettre aux mains du hasard, d'une seconde à l'autre. Et puis, il est libre après tout. Il marche longtemps, 2 ou 3 heures peut-être. Tourne à droite, à gauche, bifurque à la volée, accélère le pas. Gagné par l'ivresse du mouvement, ses muscles se réchauffent. La météo a changé depuis la veille. Ce n'est pas encore le printemps, on en est loin, mais un redout impromptu qui vous galvanise par bouffées. Le givre fond, les pavés brillent et l'humidité dévale les ruelles pour rejoindre la Saône, charriant toute la crasse et les rumeurs de l'hiver avec elle. Harpo franchit le pont La Feuillée, arpente le Vieux Lion en enfilade, Saint-Paul, Saint-Jean, Saint-Georges, pour revenir sur la presqu'île, cours Charlemagne, où il croise un trio de chiens en train de retourner un cajou de salade et d'autres passants, chacun affairé selon sa propre logique. Il longe la prison, ne reconnaît rien, joue avec le frisson de l'égarement, cherche des limites qui s'éloignent sans cesse, aspirées dans la perspective des collines du nord au sud. Dans une boulangerie près de la place Bellecour, il s'achète plusieurs sablés et un pain au raisin qu'il mange goulûment, assis sur le socle du Louis XIV sculpté par Lemot. Le temps passe, Louise Desormes et Beaulieu vont probablement se demander où il a disparu, mais à cet instant, Harpo n'y pense pas. Ce sont d'autres images, confuses, qui lui viennent à l'esprit, comme cette fois où, avec son frère Chico, ils avaient volé un carton de petits pains à la cannelle dans l'arrière-cour de cette pâtisserie de l'Upper East Side et qu'il les avait engloutis d'un trait, à 2 doigts de l'étouffement, de peur qu'on les surprenne. Dans cet embryon de souvenir, comment l'appeler autrement, il n'identifie pas clairement son frère, mais une présence familière, assurément. De même que la saveur bien particulière des petits pains, tout cela venant s'inscrire dans sa mastication présente par une superposition magique des sensations à travers le temps et l'espace. Il repart en zigzag, s'amuse à déchiffrer le menu à la vitrine d'une brasserie, observe un liftier aux prises avec des mâles qu'il décharge d'une grosse Bugatti garée là, et plus loin, les cuisses d'une prostituée au teint pâle et le sourire tendre à l'ombre de la rue Mercière, avant de remonter la foule du marché sur les quais, assaillie par les parfums de fruits et de légumes, les voix fortes des marchands et 1000 autres choses, sans compter la soif et la fatigue qui commencent à peser. Bref, la tête lui tourne un peu et c'est maintenant dans l'enceinte du palais Saint-Pierre, tout proche, qu'il trouve refuge. Les fesses posées sur un banc de pierre, le buste légèrement avachi, une main à la dérive, le manteau défait, Harpo goûte le silence du jardin ancestral. Il est midi. Laissons notre héros au repos et reprenons le cours de notre enquête. Arrivé en France, le détective américain, un certain Dufresne, a suivi les traces de Harpo. Au Havre, il vérifie que les bagages de l'artiste ont bien été mis en consigne. À Paris, il se rend dans le garage du 13e et loue le même modèle de voiture que son compatriote quelques mois plus tôt. D'instinct, il emprunte ensuite la Nationale 7 en direction du Sud. Novice et sujet aux railleries de ses collègues, le jeune Dufresne doit encore faire ses preuves dans le métier. Il choisit de se laisser porter par le hasard. Non sans humour, le narrateur s'amuse à diriger ses pas. Il semble que la grande famille des détectives se répartisse en 2 catégories distinctes. Certains ont la conviction qu'une enquête bien menée est le fruit d'une mécanique absolument rigoureuse. Le bon enquêteur, pense-t-il, est un être à part, scientifique et méticuleux, un technicien supérieur, doté d'une acuité particulière aux détails qu'il accumule dans sa besace. L'improvisation n'est pas son genre. D'autres, à l'inverse, sont partisans d'un art plus fluctuant. Ils souscrivent au monde sensible et aux forces contradictoires qui l'animent. C'est une posture romantique. il s'agit pour eux de s'immerger dans la zone du mystère et de se laisser doucement dériver, selon un courant qui, parfois, par chance ou par hasard, ou quel que soit le nom que l'on donne à cet arrangement du ciel ou des planètes, les portera aux rives de la solution. Dans ses bons jours, et ils sont rares, le détective Dufresne pourrait admettre qu'il est un cocktail un peu brouillon de l'une et l'autre sensibilité. Mais la plupart du temps, il se considère surtout comme un imposteur. La manière dont il patauge avec le dossier Marx en est à ses yeux le cuisant témoignage. Au volant de la torpedo Citroën, il vient de parcourir 500 km, furetant ici ou là à travers la campagne et quantité de bourgades. Fontainebleau, Nemours, Montargis, Nevers, Moulins, Roanne, Tarare, etc. Toutes très sympathiques et tellement françaises, ce fut un plaisir. Mais qu'a-t-il découvert concrètement ? Rien. Aucun signe du comédien fantôme. Est-il à ce point-là idiot ? Croyait-il vraiment résoudre l'enquête par l'opération du Saint-Esprit ? Non, soyons lucides. Dufresne est un piètre détective. Il le sait, il l'a toujours su. À l'heure qu'il est, Harpo Marx se trouve peut-être à Madrid, en Égypte ou dans les mers du Sud, comment le deviner ? Il lui reste à informer son chief de son fiasco sur cette affaire. La question de son avenir à l'agence Pinkerton sera probablement réglée plus rapidement qu'il ne l'imaginait. Arrivé à Lyon la veille, il a vaguement prospecté ici ou là sans plus de résultats. Le moral en berne, il est descendu chez les Monod, une pension de famille près de la rue de la République. Au cours du dîner, Dufresne a feuilleté le progrès qui traînait là, ignorant bien évidemment qu'une photographie de Harpo figurait dans une précédente édition il y a quelques jours seulement. Couché tôt, il a fort mal dormi, le poids de l'andouillette conjugué à ses préoccupations de toute évidence. Ce matin, au comble du désœuvrement, il fait quelques pas dans le quartier avant de s'aventurer sur les marches du musée des Beaux-Arts, qui s'ouvre à lui au passage. Dans la section des modernes, il s'arrête devant une petite huile signée Albert Marquet, une vue de Rouen sous un ciel nuageux, peinte en 1912. Par un cheminement étrange, il ne peut s'empêcher d'établir un lien entre le petit paysage et sa propre vie, tout aussi embuée. Les bras ballants, encore ému par la présence de ce tableau, il poursuit sa déambulation dans les jardins attenant au musée. Il est saisi par le calme qui règne ici, et c'est tout naturellement qu'il prend place sur un banc situé au centre du jardin, classiquement dessiné en étoile. Son regard balaie de droite et de gauche, hésite entre les statues de marbre et les médaillons incrustés dans la façade, avant de se poser sur le type assis face à lui. Légèrement avachi, le manteau défait, une main à la dérive, la tête inclinée sur le côté gauche, le crâne dégarni et les yeux ronds, Dufresne le reconnaît sans effort, puisqu'il trimballe sa photographie depuis un bon mois dans son portefeuille. Un quart d'heure plus tard, le détective télégraphie au chief à New York, Harpo Marx retrouvé, sain et sauf, retour USA imminent.
Dans les cours.
Après des adieux déchirants à Louise et ses amis lyonnais, Harpo embarque enfin pour les États-Unis. Nous voici parvenus à la fin du voyage, qui n'est pas encore tout à fait la fin du roman de Fabio Viscogliozzi. En conclusion, retrouvons Harpo au milieu de ses proches à New York, où il est fêté comme un revenant. On ne sait pas si l'artiste a retrouvé la mémoire, mais ce soir-là, la star du muet a retrouvé l'usage de la parole. Il s'amuse à donner le change, comme si son métier de comédien lui permettait de combler les vides de sa propre histoire. Une ultime pirouette de saltimbanque, pour improviser entre les points de suspension. L'auteur, lui, s'intéressera encore à la vie de Harpo, guettant les réminiscences de son amnésie. Mais le mystère reste entier, car l'acteur, jusqu'à la fin de sa vie, n'évoquera jamais son traumatisme, comme si tout cela n'avait jamais existé. On peine à se figurer ce que sont les retrouvailles à New York. C'est un comité grand format qui attend Harpo à sa descente du bateau quai numéro 88 Manhattan West. La famille Marx est au grand complet et les amis en pagaille. Dorothy Parker, Robert Benchley, George S. Kaufman, Alexander Woolcott au premier rang. L'œil fou et les cheveux au vent, il n'en revient pas. C'est lui qui l'avait poussé à entreprendre cette tournée idiote. La tournée du caviar, disait-il plein d'esprit. Quelle bêtise! Harpo est embrassé, malaxé de bras en bras, félicité d'être bien vivant, ici et maintenant, sur la terre ferme américaine. Groucho lève les bras au ciel avant de saisir Harpo par le crâne, hurlant de joie. Mais sacré nom de Dieu, où étais-tu passé ? Dufresne, le sauveur, est remercié et célébré en bonne et due forme, lui aussi. Confuse, hystérique, copieusement arrosé, les festivités se poursuivent dans un restaurant sur la 44e, puis chez l'un ou chez l'autre, on ne sait plus bien, pendant 24 heures au moins. Il serait vain d'écrire ces instants par le menu. Disons simplement que dans la frénésie générale, Harpo trône au milieu de tous, héroïque, en rescapé d'une terre lointaine et sauvage. Il a même accepté d'endosser son fameux costume de scène, le vieux trench coat et la perruque dorée. C'est bien lui. Grimpé sur une table, il narre son épopée dans le désordre. Raconte la campagne, la neige, des ormes, Lyon, l'imprimerie, le chou farci et les parties de 421, la fontaine gelée et Peter Bruegel l'ancien. C'est un robinet ouvert. Harpo n'a jamais autant parlé de toute sa vie. Et il en rajoute, grossit le trait, rejoue les épisodes, truffant son récit de mots et d'expressions françaises. On en redemande et on pleure de rire, nerveusement comme toujours lorsque le soulagement succède à l'inquiétude. C'est ainsi, les voix et la chaleur s'élèvent dans cette nuit glacée de février 1934, tandis que se referme une parenthèse qui aura duré près de 4 mois.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec Pierre-Henri à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tesser. Un grand merci à Fabio Viscogliozzi ainsi qu'à Evelyne Wenzinger et Fanny Plan des éditions Actes Sud. Je rappelle que Harpo sera disponible en librairie à partir du 8 janvier 2020. Bonne soirée et bonne année.